Lizzie présente Une silente agonie de Elisabeth Georges, lue par Romain Bressy. Pour Sheila, reine guerrière. Mais la vérité n'a pas de fin. Elle continue à avancer, et si vous n'avez pas le courage de la suivre, vous mourrez. Elizabeth Elo, North of Boston. Elle découvrirait que le chagrin ne disparaît pas. Il demeure en vous, avec vous, un serpent enroulé autour de votre gorge qui, c'est là le secret que personne ne vous dévoile, ne desserre jamais ses anneaux. On apprend simplement à vivre avec ses fantômes. Tessa Fontaine, The Red Grove. Partie 1. Chapitre 1. 4 avril. Bodmin et Pointe de Navax, Cornouailles. S'il avait su ce que cette journée lui réservait, Geoffrey Henshaw serait resté dans son lit. Il était pourtant tout sauf confortable et avait une fâcheuse tendance à se creuser, de sorte que, pour s'en extraire, Geoffrey devait rouler jusqu'au bord avant de poser un genou par terre. Cette gymnastique quotidienne aurait constitué un spectacle réjouissant si seulement il y avait eu quelqu'un pour y assister. Et cela ne risquait pas de se produire tant que les parents de Freddy n'auraient pas « révisé leur jugement » comme celle-ci se plaisait à le formuler. Geoffrey n'était pas devin, sinon il aurait compris dès le départ que céder à son attirance pour une de ses élèves ne le mènerait à rien de bon. Aussi, plutôt que de se livrer à de vaines conjectures sur son avenir, il se leva sans plus tarder et jeta un coup d'œil par la fenêtre. La journée s'annonçait brumeuse. Sitôt prêt, il se mit en route pour son travail sans avoir la moindre idée de ce qui l'attendait. Lorsqu'il arriva enfin, il se sentait mentalement épuisé. Durant presque tout le trajet, il avait dû se concentrer sur sa conduite pour ne pas heurter une haie ou quelque autre obstacle le long d'un enchaînement de routes de plus en plus étroites. Au dernier virage avant Truro, la brume s'était dissipée et le soleil avait percé. Geoffrey s'était alors exhorté à profiter de cette foutue matinée, un des nombreux credos hérités de ses parents. Le ciel se parait d'une lumière annonçant le printemps après un hiver interminable et glacial qui avait mis sa patience, ainsi que son moral et sa garde-robe, à rude épreuve. Si les haies n'avaient pas encore reverdi, les ajoncs arboraient déjà un jaune éclatant. Bientôt, les ombelles blanches du cerfeuil sauvage se balanceraient sur les bas-côtés, les mûriers bourgeonneraient et le lierre se déploierait partout où il trouverait à s'accrocher. Geoffrey aurait dû se réjouir de ces signes de renouveau, mais il en était incapable. Il faisait pourtant de gros efforts pour convaincre son juge intérieur, perché sur son épaule, qu'il avait repris le contrôle de sa vie. Certes, il avait perdu son poste de professeur de terminale dans le meilleur lycée d'Exeter. Mais il avait surmonté l'humiliation publique et décroché un emploi offrant de vraies perspectives. À 27 ans, à moins d'être renversé par un camion ou, plus probable dans cette partie de la Grande-Bretagne, par un autocar de tourisme, il avait encore largement le temps de rassurer tous ceux qui s'inquiétaient de son sort depuis son divorce. D'accord. Pour le moment, il devait s'accommoder d'un logement provisoire dans un bed and breakfast de Bodmin. Une minuscule chambre louée à un retraité, Monsieur Snyder, dont la femme était partie d'un coup pendant qu'elle pliait du linge et qui, peut-être pour cette raison, ne pouvait ou ne voulait s'arrêter de parler, malgré les signaux que Geoffrey lui envoyait pour qu'il se taise, qu'il la boucle, ferme son clapet une fois pour toutes. Une situation guère réjouissante, mais, au moins, il avait droit à un petit déjeuner complet tous les matins, avec du thé, des cornflakes et des quartiers de pamplemousse en conserve. Estime-toi.